Fait que c'est ça, c'est le début. Merci à chacun pour votre accueil. On veut vous dire merci parce que depuis les dernières semaines, on reçoit des petits mots. La semaine passée, on était de passage avec vous. On voulait pas manquer le dernier message de Christian pour conclure ces années de service, de ministère. Excellent message. Puis on a été vraiment touchés par votre accueil, vos souhaits, vos mots de bienvenue. Tout ce que vous avez pu nous partager, c'était vraiment touchant et ça nous fait plaisir d'être là. On est là, ça fait depuis octobre 2021 qu'on est dans cette transition dans nos têtes. Le Seigneur nous guide depuis ces moments-là. Puis Christian en a parlé à plusieurs reprises, j'ai pu en parler à plusieurs reprises, fait que je ne veux pas revenir tellement là-dessus ce matin, mais on sait que Dieu nous a conduits, pas après pas, élément après élément, moment après moment, et on a vraiment été convaincus que c'est le Seigneur qui conduit cette transition-là. On a hâte de voir avec vous ce que Dieu va faire. Très honnêtement, je veux suivre la nuit. C'est ce que je dis, ce que j'ai dit ce matin à toute l'équipe, c'est ce que je veux répéter à l'église dans cette transition. On veut suivre la nuit que le Seigneur met devant nous. On le croit. Aujourd'hui, j'ai un message particulier. On ne va pas commencer une nouvelle série aujourd'hui. J'ai un message que Dieu a mis sur mon cœur pour ce matin-là. Mais à partir de la semaine prochaine, on va rentrer dans une nouvelle série qui s'intitule Potluck. Un petit peu un joyeux melting pot de plein de choses. On veut entrer dans une série durant cet été où on va se permettre d'aborder des sujets qu'on n'aborde pas régulièrement, des sujets dont la Bible parle, des sujets qui sont pertinents, des sujets qui sont... vous avez vu les piments, vous voyez les piments en arrière? Est-ce qu'on peut diffuser la slide? Oui, s'il vous plaît. On veut aborder des sujets qui piquent, on veut se permettre d'aborder des sujets qui intéressent, des sujets qui suscitent des questions aussi. Donc à partir de la semaine prochaine, cette série-là va être accompagnée de moments où on va pouvoir connecter ensemble, des moments où on va pouvoir aller pique-niquer à l'extérieur. On va profiter de cet été pour pouvoir connecter, se découvrir et apprendre à vivre ensemble, à fonctionner ensemble, à servir ensemble. Et avant d'entrer dans le message de ce matin, j'ai une demande particulière. Une demande pour toute l'Église, une demande pour chacun d'entre vous. Coudon, il commence déjà avec une demande alors qu'il n'a même pas commencé son premier jour. Soyez indulgents. Soyez patients. Faites-moi grâce si je vous redemande votre prénom une ou deux fois encore. Je l'ai déjà dit à plusieurs. Je ne suis pas pire avec ça, mais ça risque d'arriver. Je ne vais pas m'essayer en t'appelant Jean-Fred si tu t'appelles Alphonse. T'inquiète pas. Je veux juste te dire que je ne me rappelle pas de ton prénom, mais faites-moi grâce, s'il vous plaît. Je vais vraiment faire l'effort. Mais surtout, soyez indulgents envers nous dans les prochains mois, parce que nous, on découvre la place, mais on va apprendre à se connaître. On va apprendre à... comme je l'ai dit, à servir ensemble, on va s'ajuster ensemble. On va essayer des choses. Pendant l'été, on va essayer des choses avec vous. On va découvrir des choses. On va apprendre à avancer ensemble. Mais surtout, puis ça c'est ce que moi je me suis écrit et c'est ce que je souhaite sincèrement pour l'Église. Je crois et je souhaite sincèrement devant le Seigneur qu'on puisse avancer et faire avancer le royaume de Dieu ici dans ce coin, à Québec. On a tous été placés ici, dans cette ville. Toi, tu es peut-être né à Québec, moi non. Mais tu es là pour la même raison que moi. On a tous été placés par le Seigneur ici dans ce coin de ville pour être ses témoins, pour être une lumière, pour le représenter ici. Puis on a été mis ensemble, pas juste pour s'asseoir quelques minutes le dimanche matin en attendant que Jésus revienne. On a été placés ensemble pour pouvoir gagner des cœurs pour lui. On a été placés ici pour pouvoir briller dans cette ville, pour voir des vies transformées par la grâce. Et c'est ce que je crois qu'on va vivre, c'est ce que je crois qu'on va continuer de vivre. On veut que le royaume de Dieu continue d'avancer dans les prochaines années. Si le Seigneur tarde sa venue, on veut vraiment voir la grâce de Dieu ici. Moi, c'est ma prière. Je suis touché à chaque dimanche quand on vient, et ce matin particulièrement, dans les temps de louange ici, alors qu'on est en train de louer, on s'arrête pour louer Jésus. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on déclare dans ce quartier de Québec, dimanche après dimanche. Mais pour voir le royaume de Dieu grandir, bien, je veux le rappeler, je l'ai dit il y a quelques semaines en arrière dans cette série sur le travail d'équipe, c'est la responsabilité. Oui, c'est ma responsabilité, mais c'est notre responsabilité à tous. C'est moi devant Dieu, c'est moi avec le Seigneur, c'est moi, ma responsabilité de me tenir devant Dieu. Fait que je veux vous appeler dans cette période de transition, soyez patients, soyez indulgents, soyez persévérants. Mais surtout, prions ensemble. Prions que Dieu nous révèle sa direction dans chacun des déserts de nos vies, dans chacune des périodes de transition de nos vies. Il place une nuée pour nous diriger. Que Dieu puisse nous guider, que Dieu puisse nous faire grâce, que Dieu puisse accorder sa faveur sur cette Église. Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Seigneur, je te prie pour ce matin, je te prie pour ce message, je te prie pour les prochains mois, les prochaines années, Seigneur. Merci pour ta grâce. Quel privilège de pouvoir s'assembler. Quel privilège de savoir, Seigneur, nous venons de déménager. Seigneur, nous ne connaissons pas cette ville comme les gens la connaissent ici, mais tu es là. Et Seigneur, partout où nous allons, tu es là. Et Seigneur, quel privilège d'être ici dans cette maison ce matin, sachant que tu es le maître et sachant que c'est notre famille, Seigneur, que nous t'appartenons et que nous sommes avec toi et que tu es avec nous, Seigneur. Alors Seigneur, je prie ce matin que tu puisses prendre toute la place. Je prie que tu puisses nous diriger. Je prie que tu puisses nous conduire, Seigneur, d'une manière très particulière, Seigneur. Place les besoins, Seigneur, que peut-être nous ne voyons pas, mais qui sont devant nous. Place-les, Seigneur, devant nos yeux. Seigneur, dirige-nous sur ce chemin que toi, tu as tracé pour Mosaïque. Seigneur, merci pour les 18 dernières années et nous te prions que les 18 prochaines, Seigneur, soient remplies de surprises, Seigneur, soient remplies de fruits, soient remplies, Seigneur, de victoires, de vies transformées. Seigneur, nous te prions ce matin que tu puisses prendre la place qui te revient, Seigneur, la place du roi, la place du grand maître. Et Seigneur, que jusqu'à ton retour, nous puissions briller dans ce coin de ville, Seigneur, dans cette capitale, Seigneur, dans cette province qui a tant besoin de toi. Et Seigneur, ce matin, alors que nous ouvrons ta parole, que tu puisses parler à nos cœurs, remplis nos vies, Seigneur, remplis-nous de toi, de ta puissance, de ton esprit, Seigneur, nous avons besoin de toi. Amen. Et amen. Et amen. Ça va bien? Yes. J'étais un petit peu stressé, moi, ce matin, je vous le dis. C'est pas tous les jours une première, c'est pas tous les jours un premier message, et c'est particulièrement émotif. Et d'ailleurs, en parlant d'émotion, nous, on revient de quelques jours off. On a fait notre déménagement il y a quelques semaines, il y a deux semaines, une semaine et demie maintenant. On a fait notre déménagement, on a clenché nos boîtes rapidement, puis on est parti quelques jours dans un chalet d'un couple d'amis qu'on n'avait pas revu depuis plusieurs années. Ils ont construit un chalet dans l'Estrie. Super beau, le chalet. Mais il est placé dans un endroit qui s'appelle Nulle part. C'est incroyable. À mesure qu'on avançait, 3 heures de route, à mesure qu'on avançait, on se disait, mais voyons donc, y a-tu un chalet? Y a-tu de la vie dans cette forêt? Le petit village dans lequel le chalet est placé, il y a quelques maisons là, puis au beau milieu de la route, je dis, c'est une maison, 1 kilomètre, une maison, mais là, sur le bord de la route, il y a marqué, attention, zone urbaine. Congé de taxe 3 ans. Je regarde ma femme, je dis, zone urbaine? Il n'y a littéralement rien, mais on en avait vraiment besoin, ça nous a fait du bien. On a rarement été autant fatigués que dans les dernières semaines. Il y a quelques jours en arrière, quelqu'un est venu nous voir pour nous dire « Vous devez être habitué, les transitions, les déménagements, vous avez quitté la Suisse, vous êtes arrivé, vous avez quitté Longueuil, vous avez servi à l'église Nouvelle Vie pendant plusieurs années, allé à Sorel, tout ça, maintenant vous êtes habitué. » On ne peut pas s'habituer à un départ, c'est impossible, c'est forcément plein d'émotions. J'ai beaucoup de compassion pour Christian qui vient faire ce mot, puis je vais laisser ça ce matin devant nous, mais parce que je sais, là, quand il a sorti les clés de ses poches, je sais ce que ça fait. Quand j'ai fermé mon bureau pour la dernière fois à l'église à Sorel, je sais ce que ça fait. C'est là que les émotions sortent, quand tu déposes les clés dans le casier ou quand tu les donnes. Fait que, c'était chargé en émotions, ça nous a fait du bien, on était fatigués, on en avait besoin. Et je me dis que peut-être ce matin, quelqu'un en a besoin aussi. Tu as besoin d'un break, tu as besoin d'une pause, parce que ça fait plusieurs semaines que tu remarques que ça te prend un café de plus le matin pour te réveiller. Ça te prend un café de plus pour te... Qui est comme ça depuis quelque temps là? Ça te prend un petit café de plus ou une petite cuillère de café de plus là? Tu sens les derniers mois qui pèsent plus. Tu sens un espèce de contre-coup de la pandémie depuis quelque temps. Tu as besoin d'une pause. Parce qu'on fait tous face à des flots en continu. On fait face à des flots d'informations, des flots d'imprévus, des flots de tâches qui sont dans notre agenda, des flots de pensées. La science dit qu'on a environ 6200 pensées qui nous passent par la tête. Même moi, là, quand je lisais ça, je disais, coudonc, j'arrive à voir ça. Ça nous tourne dans la tête. Et certains, c'est plus en moyenne 6200 pensées qui passent par nos têtes dans la journée. Des flots auxquels on fait face qui nous enlèvent notre paix, qui viennent nous détourner de notre objectif, qui viennent troubler notre repos. Certains d'entre nous, on a de la misère à dormir la nuit pour diverses raisons. Ça nous empêche de voir les choses avec la bonne perspective. On s'épuise gentiment. Et des fois, on aimerait prendre off de tout ça. Et le psalmiste, au psaume 55, au verset 5 à 9, va dire « Mon cœur, il exprime tellement bien ce qu'on ressent des fois, « Mon cœur tremble au fond de moi et les terreurs de la mort fondent sur moi. La peur et l'épouvante m'assaillent et la terreur m'envahit. Je dis, si seulement j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, je trouverais le repos. Oui, je fuirais bien loin, j'irais habiter au désert. Je m'échapperais bien vite. le plus rapide que le vent, impétueux que la tempête. On a tous eu ce genre de réflexion pendant les dernières années où j'aimerais ça partir de là. J'aimerais ça prendre off de ma situation. La Bible nous parle de repos, elle en parle énormément, mais elle n'en parle pas du tout de la même manière que nous, on conçoit le repos de nos jours. La Bible parle de repos physique, oui, mais elle ne résume pas le repos à juste le fait de rien faire. Ce n'est pas ça dont la Bible parle. La parole de Dieu parle d'un repos qui procure la paix, d'une paix qui est bienfaisante. Et peut-être qu'on l'a remarqué, mais en tout cas moi dans les dernières années, je le remarque particulièrement, mais tellement de fois, on cherche cette paix-là, ce repos dont on a besoin. On aimerait ça prendre off de nos situations pour toutes sortes de raisons. On cherche le repos dont on a besoin, mais on ne le trouve pas réellement. Oui, on est relaxé, on parvient à se relâcher un petit peu, à décrocher un petit peu, mais on ne retrouve pas cette paix qu'on cherche au fond de nous, au plus profond de nous. Les statistiques nous montrent que la majorité, en tout cas, il y a une croissance incroyable là. Le nombre d'abonnés pour les services de streaming, vidéo, Netflix, Disney+, tout ça, augmente. C'est proportionnel avec les prix, hein. Ça augmente, c'est incroyable, ça augmente. Le temps passé sur les réseaux sociaux fait qu'augmenter, ça devient même un enjeu de santé publique. On en parle de plus en plus. On parle de 10 heures en moyenne pour un adolescent sur un écran. Et je regardais la statistique nord-américaine, la dernière qui est sortie 2021, le nombre de dollars qu'engendre l'industrie du divertissement, donc musique, TV, film, cinéma, streaming, tout ça, en 2021, on parle de 2200 milliards de dollars US de financement, de flux monétaires qui circulent au travers des divertissements. Et j'aimerais proposer ce matin, en commençant ce message, que notre problème, le problème qu'on a bien souvent, pourquoi on ne trouve pas la paix dont on a besoin, c'est qu'on confond bien souvent le repos avec la distraction. On a tendance à faire ça. À la base, le terme « distraction », le mot, là, je suis allé chercher l'étymologie de ce terme-là, veut littéralement traduit l'idée de séparer, on se sépare. Et c'est dans le sens de changer d'idée qu'on utilise le terme de distraction aujourd'hui. C'est une diversion, quelque part, qui nous éloigne de nos problèmes, qui nous éloigne de la réalité, mais ce n'est pas une solution à notre besoin. Aujourd'hui, c'est pratiquement uniquement dans la distraction qu'on cherche le repos dont on a besoin, et on ne le trouve pas. On n'y arrive pas, on ne le trouve pas. En 2019, une année incroyable à l'église de Sorel pour nous, une année où l'église a grandi de manière incroyable, de septembre à décembre, c'est des dizaines de personnes qui s'ajoutent à l'église. On a un Noël, l'église est pleine à craquer. Et là, on a un concert de Noël avec un groupe invité, c'est incroyable. On a un service qui est plein à craquer, on doit rajouter des chaises. Puis direct après, là, c'est la célébration de Noël. On a quelques jours de repos, puis je me rappelle, j'ai un épuisement qui me tombe dessus à ce moment-là. Je me retrouve assis dans le salon depuis 2-3. Je me lève tôt le matin, je bois un café, je joue ma Bible et tout ça. Je suis assis dans le salon, puis j'arrive pas à me reposer. C'est la première fois que ça m'arrive, je suis fatigué. Puis mon réflexe, je me rappelle de ce moment-là, là, j'étais sur mon cellulaire, puis je passais mon temps à défiler une page, puis l'autre. Puis oui, je lisais, je regardais les actualités, je lisais toutes sortes d'affaires, toutes les choses que tu n'as pas le temps de lire quand tu cours tout le temps. Autre chose que des livres de théologie aussi. Et là, je lis. Puis à un moment donné, là, après 3-4 jours comme ça, je suis bien fatigué. Puis je me souviens avoir eu, moi, ce que j'ai appelé une overdose de cellulaire. Plus capable. Je ne suis pas reposé, je cherche à m'évader là-dedans. Puis, vous avez déjà vécu ça, là? Ça vous est déjà arrivé? Tu sais, t'es comme... Tu le poses, puis t'es comme, ça, tu cherchais à t'évader un petit peu, à relaxer, puis finalement, tu es encore plus épuisé de ça. Et j'ai découvert qu'il y avait une fonction incroyable cachée sur ces machines-là, à ce moment-là. Et j'en ai parlé à ma femme, parce que ça nous arrive à tous. C'est une fonction qui est vraiment cachée. Tu pèses sur ces deux boutons, c'est un iPhone, puis à un moment donné, il apparaît ça. Ça dit éteindre. Incroyable, incroyable. Tu l'éteins et tu fais autre chose. Et ça change. Mais ce matin, on va regarder un passage dans l'évangile de Matthieu qui nous enseigne comment être rafraîchi et pas seulement diverti. Comment trouver la paix, pas seulement s'évader quand on fait face à toutes sortes de flots. C'est dans Matthieu 14, je vais vous le lire. Matthieu 14, versets 13 à 23. C'est une longue portion de texte, mais on va y aller ensemble. À cette nouvelle... Jésus vient d'apprendre que Jean-Baptiste a été exécuté. Et à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. Et l'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Et quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle. Il guérit les malades Et le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Et Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Jésus a un plan en tête à ce moment-là. Verset 17, « Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. » Et il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Et tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Et ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Les commentateurs nous disent que c'est près de 15 à 20 000 personnes qui étaient assis à ce moment-là, à cet endroit-là, qui ont bénéficié de cette multiplication miraculeuse. Verset 22, « Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. » Au verset 24, « La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. Et à la fin de la nuit, » Jésus a attendu un petit peu, là. Il les regardait en disant, « On va les laisser. » Verset 25, à la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et c'est dans leur frayeur qu'ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Et Jésus lui dit, viens. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers le Seigneur, pour aller vers Jésus, pardon. Verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il a commencé à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Et ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu !» Dans ce passage-là, Jésus veut enseigner plusieurs choses à ses disciples. Il est très intentionnel. Il a choisi délibérément de les envoyer sur l'eau pour le devancer. Mais on remarque dans ce passage-là qu'il y a deux types de flots auxquels font face les disciples. Il y a ce que j'appelle, moi, les flots imprévus. On revient sur le texte. Dans Matthieu 14, les versets 13 à 16, le texte nous dit qu'à cette nouvelle, ils ont appris que Jean-Baptiste était exécuté. Ils avaient besoin, c'est des émotions, il y a quelque chose qui prend place, c'est difficile. Jésus était malgré tout proche de Jean-Baptiste, c'était un parent, c'était quelqu'un qui... Il savait pourquoi Jean était venu et il savait ce qui venait de prendre place. Les disciples sont affectés. Jésus veut se retirer, a besoin d'aller se ressourcer, a besoin de... Il y a comme un épuisement émotionnel qui est là. Ils ont choisi d'aller se mettre à part dans le désert. Et la foule apprend que Jésus est en train de partir, ils vont les devancer. Fait que là, quand ils descendent de la barque, il y a déjà une foule incroyable qui est là, puis eux sont remplis de besoins. Eux, ils se préoccupent pas trop de savoir que Jésus et ses disciples avaient besoin de se reposer, avaient besoin de se ressourcer. Eux, ils viennent pour prendre. Et Jésus, ému de compassion, va commencer à les guérir, va agir comme lui, il le fait à chaque fois. Là, il va agir avec puissance, il va démontrer la grandeur de Dieu, il va démontrer sa puissance dans le peuple. Et il va prendre soin d'eux. À la base, cette journée-là, ça devait être une journée off. Ça devait être une journée de break. Et le texte nous dit ici qu'ils commencent à prendre soin. Et quelque part, c'est leur plus gros chiffre du dernier mois qui commence là. Alors qu'ils étaient déjà... Il y avait besoin d'un ressourcement. Il y avait besoin d'un temps d'arrêt. Ils vont commencer... Mettons-nous à la place des disciples. Là. Jésus va prononcer cette prière. La multiplication prend place. Des dizaines de milliers de personnes qui sont présentes, qui ont faim, les gars vont commencer à distribuer de la nourriture, à être debout, à piétiner sur place, on est dans la soirée, donc on n'est plus en plein soleil, mais à piétiner sur place, distribuer ça pendant des heures, nourrir 20 000 personnes, là, tu t'en vas au Tim Hortons, il y a 10 personnes devant toi, ça te prend déjà 40 minutes pour ressortir avec ton beigne, imagine distribuer à 20 000 personnes du pain et du poisson, là. Fait que c'est une grosse journée. Et avec ça, il y a toute la charge émotionnelle. Ils sont là, les besoins sont là, les cancers, les maladies, les personnes handicapées, les personnes qui n'ont aucun espoir, les personnes qui viennent dans le deuil, qui sont face à eux, qui demandent à ce qu'on puisse prier avec eux. Et toutes ces choses-là qui viennent les affecter, qui viennent en rajouter. Mais je rappelle qu'ils avaient besoin d'un break. C'était la journée off. Et là, ça commence pour eux. Des flots d'événements imprévisibles qui arrivent sur eux à ce moment-là, alors que ce n'était pas du tout dans l'agenda. Et pour nous aussi, ça arrive. Hein. Des flots d'événements imprévisibles qui marquent notre quotidien. Problèmes de santé, on ne prévoit pas ça dans notre agenda. Je vais avoir des problèmes de santé. Fin 2023, je vais être bien malade. Non, on ne prévoit pas ça. On ne veut pas ça. on rajoute du temps de travail. Il y a quelques années, quand je prêchais, j'aurais dit, on t'enlève ton travail. Non, aujourd'hui, on te rajoute du temps de travail parce qu'il manque d'employés. Puis là, ça t'enlève un temps de repos que t'avais, dont tu avais besoin. Puis là, on t'en redonne encore. Puis du travail, du temps obligatoire, puis ainsi de suite. Puis ça ne s'arrête pas. Un accident qui vient te limiter, qui vient t'arrêter dans ta course. On vit tous des moments comme ça qui sont des flots imprévisibles qui nous arrivent par en arrière, qu'on n'avait pas pensé que ça pouvait arriver. Et quand ça arrive, notre réflexe naturel à chacun d'entre nous, eh bien, c'est de limiter tout ce qu'on fait. On s'arrête, on se met en état de crise, on veut limiter les dégâts. Puis notre attention, elle demeure juste sur l'imprévu. On gère l'imprévu. On est d'accord? On fait tout ça. Tu sais, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, il y a un drame, quelque chose. T'arrêtes tout, puis tu gères le problème. Tu essayes de gérer l'imprévu. Et c'est ce que font les disciples à ce moment-là. Ils étaient brûlés au moment de partir avec Jésus. Ils arrivent, ils font face à l'imprévu. Et là, ils tirent sur la corde encore jusqu'à la dernière limite. Et Jésus va, à la fin de cette journée incroyable, va les envoyer encore. Pas de break pour eux. Lui, le texte dit qu'il a prévu de prendre un break. Pas de break pour eux. Allez-y les gars, devancez-moi. Et là, ils commencent à entrer, ils montent dans la barque, ils vont sur l'eau. Et c'est ça, ça continue, ils tirent sur la corde. Là, ils sont épuisés, ils sont brûlés, les disciples. Ouais, mais c'est Jésus qui les envoie. Je suis convaincu que Jésus voulait leur apprendre quelque chose. Jésus voulait voir, tu sais, il y en a-tu un dans l'équipe qui va dire, hey, nous aussi on a besoin de se ressourcer, on a besoin de faire comme toi, on a besoin d'aller se mettre dans la présence de Dieu, puis on a besoin de se mettre à... Il n'y en a pas un qui a milité à ce moment-là, le texte ne nous dit rien. Il les a fait monter dans la barque, il savait ce qui les attendait. Alors qu'on entre dans cette période estivale, post-pandémique, c'est fini les mesures depuis un moment maintenant, peut-être que toi tu sens ce contre-coup là, on a besoin de trouver la paix, si tu as besoin de trouver la paix face aux flots qui te font face durant cette période, l'été c'est la période qui s'y prête, on veut relâcher, on veut prendre off de plein de choses, ben ce matin tu es à bonne place. Mais ne cherche pas une diversion durant cette période d'été, cherche pas une diversion de plus, tu n'as pas besoin de t'abonner à un nouveau service de streaming de plus, là, il y en a des dizaines qui existent, tu n'as pas besoin de ça, réellement tu n'as pas besoin de ça. Le plan initial c'était de se ressourcer. Jésus avait prévu de mettre du temps de côté. Il avait été, il n'a pas oublié ça. Hein. La foule a été bénie, a été guérie, a été nourrie. Et ce que Jésus va faire direct après ça, il envoie ses disciples et lui a prévu d'aller s'isoler. Il a gardé une case prioritaire dans son agenda pour aller dans la présence de Dieu. On va lire Matthieu 14, versets 22 à 23. Et aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là tout seul. Jésus n'a pas oublié. Il n'a pas oublié pourquoi il était parti à la base. Il avait besoin de s'isoler. Il avait besoin de se ressourcer. Les flots ne préviennent pas toujours. Et à cause de ça, là, c'est nécessaire. Puis ça, c'est pour nous. Il faut qu'on l'applique. On a besoin d'appliquer ça. Tu rentres dans ta période de vacances. Ne prends pas de vacances de la présence de Dieu. Ne prends pas de vacances... Tu as besoin de te divertir, tu as besoin de changer d'air, tu as besoin de décrocher totalement. Mais s'il y a une chose dont il ne faut pas décrocher, c'est de la présence de Dieu. Le seul moyen de trouver la paix dans ces flots qui nous entourent, chacun d'entre nous, c'est dans la présence de Dieu. Je ne peux pas la trouver ailleurs. Les divertissements ne me reposeront pas réellement. Ils vont juste faire une diversion momentanée. Je vais me retrouver aussi vide qu'avant. On a besoin d'apprendre à faire comme Jésus. Déterminer un temps et un lieu pour se ressourcer dans la présence du Père, dans la présence de Dieu. Si ça valait pour Jésus, ça vaut pour nous ce matin. Amen? Vous êtes toujours là? Yes. Est-ce que tu dois toujours être disponible? Est-ce qu'il faut tout le temps être disponible? J'ai éteint mon téléphone, je ne suis plus disponible. Là. Je suis avec vous. Laisse-toi pas distraire. Si à chaque fois que tu entreprends de prendre du temps avec Dieu, tu te laisses distraire, tu te laisses... C'est ça, c'est souvent ça, tu fais le projet, je vais prendre un temps pour lire, tu as des enfants peut-être à la maison, nos enfants là sont merveilleux, c'est des miracles, mais ils prennent notre attention. Tu as besoin de trouver des temps, de placer des temps prioritaires dans la présence de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Si à chaque fois que tu veux prendre du temps, t'entreprends de prendre du temps avec Dieu, tu te laisses interrompre. Si tu ne fixes pas de limite, tu vas finir par t'épuiser spirituellement. Ouais, mais... Moi, je me sacrifie pour servir Dieu, justement. Je fais ça tout le temps. Là. Je donne du temps, je sers le Seigneur et tout ça. J'ai envie de te dire ce matin aussi, si tu fais ça, c'est super, mais si tu finis par sacrifier tes temps dans la présence de Dieu, parce que Jésus en prenait dans la présence du Père, tu vas finir par ne plus rien avoir à donner à personne. Fait que place des temps dans la présence de Dieu, c'est nécessaire. Puis je veux terminer avec le deuxième flot. Il y a un autre type de flot auquel on fait face. C'est ces espèces, il y a les flots imprévus qui nous arrivent par en arrière, mais il y a aussi ces flots continus qui épuisent nos ressources. Dans Jean 6, l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 19, après avoir ramé, là, on parle de ce moment-là, après avoir ramé 5 kilomètres, l'évangile de Jean nous donne plus de détails, ils virent Jésus marcher, qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque. Ça fait des heures qu'il rame à contre-courant. Vous savez, la mer de Galilée, le lac sur lequel il naviguait à ce moment-là, c'est un endroit qui est connu pour ses orages, ses micro-cellules orageuses violentes, comme on peut voir. Là, on reçoit des notifications, nous, aujourd'hui, quand il y a un orage violent. Là-bas, ça ne prévenait pas, puis ça ne prévient toujours pas. Et là, ils sont sur l'eau, c'est des pêcheurs, ils connaissent ce lac-là. Ils sont pris par cette tempête-là qui arrive, qui les surprend, alors qu'ils sont déjà épuisés. Sauf que là, le texte nous dit que ça fait des heures qu'ils sont en train de ramer, puis ils ont juste ramé 5 kilomètres. Ce n'est pas si grand que ça, là. Ils sont à peine à mi-chemin, au milieu du lac, ils sont pognés à contre-courant, la voile, elle ne fonctionne pas, ils sont là en train de ramer comme des malades, ils n'y arrivent plus. Ils sont brûlés à l'excès à ce moment-là. Ces flots-là viennent épuiser leurs dernières ressources, ils sont brûlés. Et ce matin, je veux parler de ça parce que je suis convaincu que quelqu'un en a besoin. Je priais pour ce moment ce matin, puis durant la semaine, puis je sais que quelqu'un a besoin de ça ce matin, ici. Parce que toi, tu es là, puis tu as quelque chose, littéralement, tu es brûlé. Peut-être que c'est toi qui vis ça, des situations, ça ne s'arrête pas là. Ça fait un moment, tu dis, je suis là-dedans, je tourne en rond, j'y arrive pas, je suis pris. Je prie avec ce pattern qui revient, cette situation dans ma famille qui ne s'arrête pas, cette situation dans mon couple que j'espérais c'était réglé, puis là ça me revient dessus, situation dans, je pensais avoir une rémission de ce problème de santé, puis ça revient sur moi. Quelqu'un qui a besoin d'entendre ça ce matin. Comme c'était le cas pour les disciples, Jésus veut t'enseigner quelque chose de nouveau là. Le challenge des disciples dans ce passage-là, à ce moment précis-là, c'était pas la barque allait bien, c'était pas les flots, c'était des flots. Leur problème, c'est que malgré toute leur expérience, toute l'expérience de navigation qu'ils avaient, ils savent pas du tout comment faire face à ces flots-là. Ils sont épuisés, ils capotent, parce que les flots ont retiré tout le reste de ressources qu'ils avaient, puis ils avaient l'habitude de le faire par leurs propres moyens, puis le texte nous le montre, ils ne résistent pas quand Jésus les envoie. Matthieu 14, versets 25 à 26, à la fin de la nuit, ça fait des heures qu'ils sont là, ils sont sur plage. Jésus marche sur le lac, et quand les disciples le virent sur le lac, ils sont affolés au point de penser que c'est un fantôme qui s'approche d'eux. Ils sont brûlés, ils n'y arrivent plus là, ils ne sont plus capables. Et ils commencent à pousser des cris de frayeur. Vous savez, les Juifs connaissent très bien les histoires, il y en a plusieurs histoires de miracles avec l'eau. Hein. Ils connaissent qui a pris place avec Moïse, quand Moïse a été devant le peuple, la mer Rouge s'est ouverte, puis le peuple est parti à traverser cette mer-là, parti de l'Égypte, en traversant à sec. Ils connaissent les histoires qui parlent de Josué, le peuple d'Israël, qui traverse le Jourdain à pied sec. Ils connaissent les histoires avec Élie et Élisée, pareil, traverser l'eau et tout ça. Jésus arrive vers eux, sont en panique, ils pensent que c'est un fantôme, Matthieu 14, verset 27, et il leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Ça semble assez insignifiant ce « c'est moi », mais les termes que Jésus va employer, quand Jésus déclare ces mots « c'est moi », il dit littéralement « je suis ». Il est en train de faire référence à quelque chose qu'ils connaissent. Ils savent qui est « je suis ». Ils savent qui est le fameux « le grand je suis ». Ils savent qui est Dieu. Il est en train de leur rappeler qu'il est Dieu. Marcher sur l'eau, là, dans l'Ancien Testament, c'est seulement quelque chose qui est réservé à Dieu. Il n'y a que Dieu en personne qui en était capable. Job 9, verset 8, « Tout seul, il déploie le ciel et il marche sur les hauteurs de la mer. » Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ils le savent très bien. Et dans leur frayeur, dans leur épuisement, Jésus est en train de les ramener à cette réalité-là, à cette vérité fondamentale. Ce n'est pas des diversions, ce n'est pas des divertissements qui vont régler leurs problèmes. C'est la présence de Dieu. Quand des flots de toutes sortes nous font face, au point d'épuiser nos ressources, le seul qui peut te donner la paix, c'est le seul qui peut dire « je suis ». C'est Dieu. Matthieu 14, verset 28 à 33, je vais appeler les musiciens à me rejoindre. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Et Jésus lui dit, « Viens. » Et Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt Jésus tendit la main. Il l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?»« Je suis Dieu. » Je peux faire tout ça. Je je peux te sauver, je peux te sortir de là, je peux te faire marcher sur l'eau avec moi. Je peux marcher sur l'eau. » Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Et ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Ils ont reconnu qu'il était vraiment à ce moment-là le Fils de Dieu à cause de ce qui a été accompli. Si au milieu des flots qui me font face, parce qu'on en vit tous, chacun a des niveaux différents, mais là, alors qu'on entre dans cette période estivale où on s'attend à du repos, je veux nous éviter de sortir de cette période-là encore plus vide, encore plus épuisé. Parce que je le sais, ça fait plusieurs années que je suis dans le ministère, mais ces trois dernières années sont particulières. Il n'y a rien de précédent. Le monde va vite, à une vitesse incroyable. Et on est constamment en train de chercher à s'évader dans toutes sortes d'affaires. On est toutes menacées d'overdose de technologie actuellement. Mais dans les trois dernières années, j'ai tellement eu l'occasion de rencontrer des personnes qui sont épuisées. Il y a un épuisement, une pesanteur, une lourdeur qui est sur toi. Et je veux t'épuiser. Excusez-moi. Je suis en train de vous épuiser. Je veux nous éviter ce matin. Je veux nous éviter ce matin de ressortir de cet été encore une fois vide. Encore une fois, pas aussi reposé que ce que j'espérais. Oui, j'aurais rien fait. Peut-être j'aurais pris quelques grammes. Mais non, je ne serais pas en paix. Je ne serais pas plus en paix. Je ne serais pas plus reposé. Je n'aurais pas bénéficié de cette paix rafraîchissante, salvatrice que Dieu a pour moi. Si je veux expérimenter la paix face au flot, il va falloir que j'apprenne à faire comme Pierre. Il va falloir apprendre à faire en sorte que dans ces moments-là, mon recours, mon réflexe, ce soit de lever ma voix puis de tendre mes bras vers Dieu. Et ça, mais ça, il n'y a pas de raccourci pour ça. Je veux t'inviter ce matin à mettre en pratique ce message sincèrement dans cette période d'été. Ne prends pas de vacances de Dieu. Tellement de fois, on se laisse prendre, je suis en vacances. Nous, pour nous, c'est une priorité. On est en vacances, ben on va à l'église quelque part, peu importe. Peu importe c'est quoi l'église, ben, peu importe en tout cas. Bonne église, ben on va à l'église, même s'il faut faire de la route. Pas parce que c'est obligatoire d'aller à l'église, mais parce que pour nous, c'est une habitude puis c'est un besoin. On a besoin de rencontrer du monde, d'être dans la présence de Dieu avec les autres, de prendre des temps avec Dieu. Prends des temps avec le Seigneur. Prends des temps, mets une priorité dans ton agenda, comme Jésus l'a fait. Dans les flots, peu importe, qu'ils soient imprévus, qu'ils soient épuisants, qu'ils soient récurrents. Jésus a dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Il ne dit pas « Ah, faites rien, prenez des vacances prolongées, partez. » Non, non, « Venez à moi, acceptez mes exigences. » Le Seigneur nous appelle à lui. « Et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. C'est une promesse que Dieu fait. Si tu viens à Jésus, quel que soit le type de flot auquel tu fais face, il va te donner la paix. Et cette paix-là va te donner du repos bien plus que tous les divertissements auxquels tu pourrais t'attacher. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous ce matin. Alors qu'on entre dans cette période de transition, pour certains, la transition... C'est des flots imprévus. C'est quelque chose qui vient nous ébranler. Ça enlève notre sécurité. Ça nous fatigue, ça nous épuise. Pour certains, il y a un épuisement qui est là depuis longtemps. Fatigue physique, fatigue émotionnelle. Plus envie de se battre, plus capable. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui représente Mosaïque. Présent ce matin à l'extérieur, pose ta main sur ce peuple. Pose ta main sur nous, Seigneur. Apprends-nous à mettre du temps à part. Apprends-nous, Seigneur, à faire comme toi, à mettre en priorité sur nos agendas, quels que soient les imprévus, quels que soient les flots, à mettre un temps dans ta présence, à mettre un temps prioritaire pour se laisser remplir de toi, se laisser bercer par toi, se laisser apaiser par toi. Seigneur, éloigne-nous, Seigneur. Apprends-nous à utiliser ces fonctions de mettre sur pause les activités, de mettre sur pause les machines, la technologie parfois, qui nous permet de nous divertir, de nous éloigner de la réalité pour rentrer dans le lieu secret, Seigneur, que tu nous as appelé à découvrir quotidiennement. Seigneur, donne-nous cette habitude. Implante-la dans nos cœurs par ton Esprit Saint. Appelle-nous, Seigneur. Attire-nous, Seigneur. On en a besoin. Et Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les fois où on fait comme comme les disciples, on est tellement comme eux. On est déjà brûlés, on sait qu'on a besoin de paix, puis nous, on s'en va ramer là-dedans, là, puis on s'en va tirer sur la corde jusqu'au dernier pouce. Seigneur, attire-nous à toi. Dans cette année, Seigneur, alors que nous entrons dans cette période de transition, permets-nous de goûter au lieu secret comme jamais. Permets-nous de goûter à ta paix. Permets-nous de découvrir ta volonté comme jamais avant. Conduis-nous, Seigneur, en tant que peuple, tous ensemble. Seigneur, permets-nous, alors que tu l'as fait avec Pierre, permets-nous à nous aussi de marcher sur l'eau avec toi, parce que toi, tu peux, de marcher sur ces flots, de les traverser. Et Seigneur, je te prie particulièrement pour quelqu'un ce matin qui en a besoin, qui est épuisé par ces flots récurrents, qui viennent et qui reviennent et qui n'y a plus de ressources, plus capable, capote, plus capable, c'est trop. Donne-lui de la force ce matin. Fortifie-la, Seigneur. Touche-la, cette personne-là. Elle a besoin de toi, Seigneur. Elle crie à toi, elle lève ses mains vers toi. Et comme Pierre l'a vécu, qu'elle puisse le vivre ce matin. Et que ça puisse être un témoignage de ta grandeur et de ta gloire. Et que nous aussi, nous puissions faire comme les disciples ce jour-là. Nous puissions nous courber devant toi et reconnaître que tu es Dieu. Tu es le grand Je suis. Tu as toujours été là. Tu es celui qui est avant que le monde soit. Et tu es celui qui va rester de toute éternité. Tu es l'alpha, l'oméga. Et nous tournons nos cœurs vers toi. Ce matin, viens donner des forces à celui qui est épuisé. Renouvelle la joie de celui qui est ébranlé. Et Seigneur, permets-nous de marcher sur les flots. Comme toi seul, tu peux nous rendre capables de le faire. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Et amen. J'avais à cœur qu'on puisse déclarer avec un dernier chant ce matin qui est dynamique combien Dieu nous renouvelle, alors qu'on puisse chanter ensemble, qu'on puisse se lever quelques instants. Puis je veux aussi vous rappeler à la fin, là, c'est tout nouveau, là on va s'habituer, mais moi je me tiens toujours soit en avant soit en arrière. Là, si vous avez besoin qu'on prie ensemble, vous pouvez aller voir Pasteur Emmanuel, vous pouvez aller voir Cathy, vous pouvez aller voir un des membres du conseil, mais venez nous voir, on va prier avec vous, puis on va prendre le temps qu'il faut avec vous. Moi je suis là pour ça, donc... Élevons le nom de Jésus quelques instants encore.